Bonjour, je m'appelle Sébastien Urbanski, donc je suis postdoc à l'université Lyon 2, membre du laboratoire éducation culture politique et coordinateur d'une recherche collective qu'on a commencée en 2015, fin 2015, qui s'intitule Religion, discrimination et racisme en milieu scolaire. Alors je dis ça juste pour me présenter, parce qu'en fait, ce que je vais dire tout à l'heure, ça, c'est pas issu de cette recherche-là, religion, discrimination et racisme en milieu scolaire, c'est plutôt issu d'une recherche précédente et puis de réflexions voilà, précédentes, parce que cette recherche-là, en fait, elle est, cette recherche collective, elle vient de débuter. Alors voilà, je vais essayer de présenter mon propos en deux parties. D'abord, les approches pédagogiques générales qui sont promues, non seulement en France, mais je vais parler un petit peu du Québec, par exemple. Et puis ensuite, je vais essayer de préciser les choses en parlant du projet d'enseignement des faits religieux ou du fait religieux, donc le projet français, qui est promu par le ministère et puis dont on a vu aussi une présentation avec Isabelle Saint-Martin hier. Et ensuite, je vais aborder les positionnements des enseignants, quelques positionnements de quelques enseignants dans quelques collèges. Évidemment, je ne prétends pas vous présenter tous les positionnements des enseignants français. Alors, je vais commencer en parlant d'un terme qui est assez controversé, qui fait débat, le terme de modernité. Je pense que à partir de la façon dont on considère. Ouais, alors c'est la première fois que j'utilise cet ordinateur et donc du coup il me fait des surprises. Pourquoi il revient comme ça? Je vais peut-être enlever ça.
Voilà, c'est
Ouais,
tout.
c'est
Tu
peut-être
reviens
ça.
dire
Ouais,
proprement.
je suis sur PC normalement et je viens d'acquérir un Mac. Et donc du coup c'est affichage, hein, je crois. Ah oulala. Ah oui là, oui, celui-là. Hein. Merci. Alors voilà, la modernité, selon la façon dont on considère la modernité, selon ce qu'on pense à propos de la modernité, est-ce qu'on est encore en modernité ou est-ce qu'on passe à une autre époque? Eh bien, on va avoir, à partir de là, des positionnements pédagogiques différents. Alors voilà, brièvement caractériser ce que c'est que la modernité. En modernité, les convictions religieuses deviennent des préférences privées et des opinions discutables. C'est un petit peu l'esprit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Donc la religion, voilà, la croyance religieuse, c'est une opinion comme l'opinion selon laquelle il va faire beau demain, à la limite, quoi. Je veux dire, ça a pas de statut supérieur à d'autres catégories d'opinions, c'est pas quelque chose de plus profond ou de plus noble que d'autres catégories d'opinions. Mais il y en a qui pensent que nous passons aujourd'hui, depuis quelques années, voilà, une toute autre conjoncture civilisationnelle. Alors par exemple, Jean-Paul Wilhem le pense, sociologue des religions, et qui a été très longtemps, enfin très longtemps, quelques années, directeur de l'IESR, avant Isabelle Saint-Martin en fait. Alors lui, il parle d'ultramodernité, mais il y a d'autres auteurs qui parlent de haute modernité, d'hypermodernité ou de postmodernité, sachant que le qualificatif postmodernité, maintenant, les chercheurs essayent de l'éviter parce que là, c'est connoté négativement. Alors, des fois, on a le discours, non, moi, je suis pas postmoderne, mais quand même, je suis hypermoderne, hein, ou ultramoderne, etc. Voilà. Alors, je dis pas que tout ça, c'est pareil, etc. Mais voilà, il y a un débat. Est-ce qu'on est dans cette période modernité, début du XXe siècle, un petit peu avec la science qui donne des espoirs, ou est-ce qu'aujourd'hui, voilà, il y a une autre conjoncture civilisationnelle, comme le dit, par exemple, Jean-Paul Wilhem? Alors, maintenant, j'essaie de préciser les choses. Je passe à des orientations pédagogiques. Alors, par exemple, une philosophe qui considère que nous sommes toujours en modernité, Catherine Kinsler, je propose de dire qu'elle fait partie d'un courant qui s'appelle le républicanisme classique, à la française, disons, Elle considère qu'il faut être indifférent aux identités collectives, des élèves notamment, et elle s'oppose à l'enseignement du fait religieux tel qu'il est promu en France. Elle considère que, pourquoi pas un enseignement du fait religieux, mais la façon dont c'est présenté, selon elle, ça pose un problème. Elle pense par exemple que quand Debray dit que le fait religieux c'est une réalité existentielle, communautaire et identifiante inscrite dans la chair des sociétés, eh bien ça risque de suggérer que finalement on est tous plus ou moins religieux, quoi, qu'on fait tous partie plus ou moins d'une religion. Alors je ne sais pas si c'est Kinsler qui a raison ou Debray, hein, je présente un peu le débat pour commencer. Et pour Kinsler, pour ce républicanisme classique, il y a un antagonisme entre raison et croyance, ou entre science et croyance. Bon, ça, on pourrait dire que Kinsler se situe dans la colonne 5 du tableau de Nicole Durich-Gautier. Bon, en simplifiant sûrement un peu les choses, évidemment, parce que vu qu'elle est philosophe professionnelle, je pense que c'est très difficile de mettre quelqu'un comme de nuancer finalement, voilà, dans des cases comme ça. C'est plus facile quand c'est des élèves peut-être, enfin voilà. Je vais passer justement plus tard à des positionnements, disons, plus concrets, plus terre à terre, plus dans les établissements, disons. Bon, je vais passer sur le point de vue libéral, en gros, qui considère qu'on est toujours en modernité. Un point de vue individualiste aussi, comme les républicains classiques, et qui considère que oui, enseignement du fait religieux, pourquoi pas, mais dans un strict objectif de transmission des savoirs. Voilà. Excusez-moi, je passe un peu vite là-dessus parce que sinon je vais pas avoir le temps de présenter l'enquête. Et puis un autre point de vue communautarien. Là, les communautariens, en général, considèrent qu'on est passé à une autre époque, on n'est plus en modernité, on est dans une autre conjoncture civilisationnelle. Et dans ce cadre, les croyances religieuses doivent être reconnues en tant que telles. Alors, elles doivent être reconnues, par exemple, à travers le cours d'éthique et culture religieuse au Québec. C'est pas grave si ça fait ça pas trop souvent, ça va aller. C'est bon. Quelques objectifs de ce cours d'éthique et culture religieuse, à ne pas confondre avec le cours suisse qui s'appelle pareil, mais qui est au pluriel. Hein, ce qui change les choses, hein, je pense. Déjà dans le titre, ça. Voilà. Alors, un des objectifs, selon Georges Leroux, qui est un des promoteurs les plus importants de ce cours d'éthique et culture religieuse, il faut respecter infiniment et absolument la différence de l'autre. Il faut mettre en place un dialogue entre les croyances elles-mêmes. Donc, on n'est pas du tout dans l'optique qu'a présenté Isabelle Saint-Martin hier, par exemple, qui, quand elle parlait de l'enseignement du fait religieux en France. Et puis, il y a aussi là une perspective collectiviste, je pense. Je catégorise un peu, mais je pense que c'est heuristique de faire des catégories comme ça, même s'il faut savoir que, voilà, évidemment, on peut toujours critiquer ces catégories, mais... Comme Kinsler est plutôt individualiste, Raymond Boudon, le point de vue libéral est individualiste, c'est une tradition de pensée individualiste, et là on est dans une tradition de pensée plutôt collectiviste. Je donne l'exemple de Micheline Milhaud, qui est également est promotrice de ce cours d'éthique et culture religieuse au Québec. Elle dit que il faut faire face à la disparition du sentiment collectif et à l'érosion du fondement social de nos sociétés, il importe de cultiver un sentiment d'appartenance à la collectivité. Et dans cette perspective, une société purement laïque ne serait nullement souhaitable. Voilà, je veux simplement souligner que là, il y a un point de vue qui est différent, plutôt collectiviste. Alors, on pourrait penser que ce point de vue communautarien, qui considère qu'on est vraiment dans une autre conjoncture civilisationnelle, qu'on n'est plus vraiment en modernité, ça concerne des contrées lointaines comme le Québec... des contrées très froides, etc., avec des lacs et tout ça, ou même des Esquimaux. Non. Ça existe aussi en France. Je prends l'exemple ici de Jean-Paul Willem, qui a été longtemps directeur donc de l'IESR, comme je l'ai dit tout à l'heure, et dans un livre qui d'ailleurs est dont on a la photo sur la brochure qu'a distribuée hier Isabelle Saint-Martin, la brochure de l'IESR, il y a un livre qui s'appelle « Théorie de l'évolution et religion ». Et dans ce livre, Jean-Paul Willem dit qu'il faut interroger aujourd'hui le principe de non-empiètement des magistères science-religion. Voilà, donc c'est bien, j'ai pas besoin de revenir là-dessus parce qu'on en a déjà parlé de ce principe noma. Alors voilà, ça veut dire en deux mots, hein, j'interprète un peu, mais c'est dans le temps qui met, il y a les contraintes de temps qui font que voilà, en gros, on peut dire que ce qui veut dire la Willem, c'est que maintenant la religion pourrait empiéter un petit peu sur la science, parce que voilà, on est dans une autre époque. Il dit qu'il faut un support mutuel entre science et religion, puisque nous sommes en ultramodernité, et il dit quelque chose de plus précis là, que la sélection naturelle comme strict produit du hasard est une croyance, au même titre que la croyance en un dessein intelligent. Ce sont là deux positions également dogmatiques. Donc c'est très clair, ça veut dire que ben on va considérer que voilà, ce sont des croyances qui sont également respectables finalement. Alors que si je reprends, alors Corinne Fortin n'est pas là, mais dans son guide critique de l'évolution qu'elle a écrit avec Guillaume Lecointre, elle explique que, enfin, où Guillaume Lecointre explique, je ne sais pas trop qui tient la plume à ce moment-là du livre, mais que il y a le principe de parcimonie qui dit que si on est rationnel, pas seulement scientifique, mais rationnel en général, il faut être parcimonieux, et donc on ne va pas inventer des hypothèses sur, je sais pas moi, les extraterrestres ou quelque autre entité qui aurait programmé l'évolution. Ça sert à rien. Je veux dire, voilà. Donc, c'est quand même une croyance qui, je pense qu'on peut le dire, qui est plus rationnelle que la croyance en un dessin intelligent. Je pense qu'on peut le dire. Bon. Voilà, en gros, des débats très généraux. Et puis maintenant, je passe au projet d'enseignement du fait religieux. Alors, j'ai dit tout à l'heure que, il a des objectifs, disons, assez clairs. Et puis, Isabelle Saint-Martin, hier, a fait une présentation de ce projet ministériel de façon très claire. Et elle dit que, eh bien, il s'agit simplement de réaliser une transmission de connaissances disciplinaires, qu'il n'y a pas d'autre objectif. Bon, je pense que si on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il n'y a pas que cet objectif-là. Alors, je commence par l'objectif de stricte transmission de connaissances disciplinaires, très rapidement. Je prends l'exemple de Guy Mandon, qui est inspecteur régional d'académie, et qui dit que nous enseignons une discipline, alors il est historien, lui, nous n'avons pas à nous préoccuper artificiellement d'y ajouter quoi que ce soit. Lorsque la dimension religieuse est nécessaire à la compréhension des objets, historiques, philosophiques, etc., que nous présentons, nous devons l'utiliser. Mais le fait religieux n'a pas de statut en dehors de cette nécessité. Sinon, on s'expose à une grave confusion. Donc voilà, premier objectif. Tout le monde est d'accord là-dessus, je pense. Mais après, il y a d'autres acteurs qui considèrent qu'il y a d'autres objectifs, dont des acteurs qui font partie de l'IESR, de cet institut qui promeut l'enseignement du fait religieux en France. Alors je donne l'exemple encore une fois de Willem qui écrit avec François Boesplug notamment, donc qui est un théologien catholique, qui dit que oui, les faits, pourquoi pas, mais comme vous pouvez le lire, par un amour immodéré et exclusif des faits, selon ses auteurs, l'on déciderait alors de taire une part importante de ce que les religions précisément ont à dire. Donc, comme si, derrière cette explication disciplinaire, il faudrait faire apparaître aussi quelque chose comme étant le message, entre guillemets, des religions. Donc, je dis pas que c'est pas bien, hein, mais je veux dire, il y a quand même un objectif qui s'ajoute, qui se surajoute, peut-être, à la transmission de connaissances disciplinaires. C'est ce que dit un petit peu Philippe Godin aussi, qui est directeur adjoint de l'IESR aujourd'hui. Il dit que les disciplines existantes veulent à la fois s'approprier la nouveauté tout en la refusant, et que le problème de la transmission par les disciplines, c'est que la dimension religieuse est occultée par ses déterminations sociales. Et ce qui amène Philippe Godin ou Jean-Paul Willem à plaider pour une discipline spécifique. Donc je veux dire, je nuance un petit peu, et je pense que Isabelle Saint-Martin serait d'accord avec moi d'ailleurs, mais je nuance quand même ce qu'elle a dit hier. La promotion d'une discipline spécifique, c'est pas un projet abandonné. Il y a des acteurs qui continuent à plaider pour ça. Il y a eu un rapport, à plaider ça, pardon, plus français si je dis. Et il y a un rapport sénatorial en 2014, par exemple, qui dit qu'une des voilà, qui n'a pas beaucoup d'influence, mais c'est quand même un rapport sénatorial qui plaide pour une discipline spécifique. Voilà, un autre objectif, les réponses à des questions existentielles. La Bible reste vivante pour un homme d'aujourd'hui, non seulement pour certains croyants, pour qui elle est inspirée par Dieu, mais aussi pour tout un chacun, parce qu'elle parle à l'inconscient collectif en apportant certaines réponses à des questions existentielles. Donc là, c'est pas seulement des questions existentielles hein, qui sont dans la Bible, il y a les réponses. Et en plus, on est tous sensibles à ces réponses, puisqu'il y a l'inconscient collectif, si vous voulez, qui fait que ben voilà, on adhère forcément finalement, hein, c'est ce qui est écrit aux réponses de la Bible. Bon, alors ça c'est écrit par Anne Raymonde de Baudrat, qui est maître de conférence aujourd'hui à la retraite à l'université de Nantes. Voilà un autre objectif théologique. Je donne l'exemple ici de Michel Quesnel, qui est théologien, qui écrit dans un livre qui s'appelle « Histoire des religions ». Et dans ce livre, c'est très étonnant, parce que malgré le titre, il n'y a pas d'historien. Il n'y a que des théologiens et des prêtres. Et c'est un livre qui est recommandé par l'Institut européen en sciences des religions. Si vous allez sur le site internet, vous verrez que c'est recommandé. Et donc, c'est pour ça, je dis qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair, quand même, avec ce projet d'enseignement du fait religieux. Alors voilà ce que dit ce théologien, Michel Quesnel, que Jésus a accompli un certain nombre de gestes de guérison notamment, qu'on appelle miracles. On peut s'interroger sur leur nature miraculeuse, mais ils étaient tels que tout témoin neutre, contemporain, put en constater les résultats. Tel homme était paralysé, il se mit à marcher, l'événement fut public de bout en bout. Bon, je vais pas commenter, on peut revenir là-dessus, mais il me semble que là, c'est un point de vue qui est théologique. Alors, j'essaye maintenant de théoriser un petit peu tout ça, en disant que, comme j'ai pensé le montrer, l'enseignement du fait religieux trouve une pluralité de justifications. C'est une notion floue au sens sociologique. Elle permet de mobiliser une pluralité d'acteurs. C'est ce que montre alors Patrick Rayou, qui est professeur à Paris 8, je crois, et qui ne s'intéresse pas à l'enseignement du fait religieux, mais qui parle de la loi d'orientation sur l'enfant au centre ou l'élève au centre. Il montre comment cette loi, elle a pu, puisque l'élève au centre, l'enfant au centre, c'est quelque chose d'assez flou, ça a pu mettre d'accord des pédagogues comme Mérieux, par exemple, influencés par le christianisme, et puis des libéraux qui sont plus attachés, qui sont pas chrétiens spécialement, mais qui sont attachés au libre marché. Donc voilà, pour que quelque chose fonctionne, pour qu'il y ait une mobilisation des acteurs, il faut des notions floues. Donc à la limite, je dirais que c'est très positif que l'enseignement du fait religieux, ça soit quelque chose de flou, parce que sinon, si c'est trop précis, ça peut pas fonctionner, ça peut pas mobiliser les gens. Voilà. C'est une hypothèse. Mais, alors, c'est une hypothèse, je pense, qui est très bien illustrée par ce que dit Debray. Il dit « Un mauvais compromis vaut mieux qu'une bonne guerre civile ». Donc Debray, principal impulseur, si je puis dire, de cet enseignement du fait religieux, avec un rapport ministériel en 2002, je pense que tout le monde en a entendu parler. Donc il semble dire qu'à la limite, voilà, mauvais compromis, donc l'important c'est de faire quelque chose. Tant pis si c'est pas très bien fait, parce que là il y a urgence, il faut enseigner le fait religieux, sinon il y aura une guerre civile. On n'est pas obligé de partager évidemment le point de vue de Debray. Et par exemple Philippe Forêt, qu'on a entendu hier, enfin que vous avez entendu hier, moi j'étais pas là malheureusement, mais Philippe Forêt dit que sur cet enseignement du fait religieux, la pluralité des justifications est plutôt un problème. Ça conduit à brouiller le problème. Donc voilà, c'est la question. Est-ce que on fait un mauvais compromis en associant par exemple des instituts de théologie l'Institut théologique de Dijon, par exemple, parce que c'est ce qui est fait. Hein. L'IESR travaille avec l'IFER, qui est un institut théologique à Dijon. Je dois refaire... voilà. Ou est-ce que on précise les choses, mais en courant le risque, peut-être, de ne pas mobiliser les gens? Je passe à mon enquête qui a été effectuée dans 3 collèges avec 26 enseignants interviewés, des enseignants d'histoire-géographie et de français. Alors, J'insiste sur un point méthodologique, c'est que j'ai voulu rencontrer tous les enseignants d'histoire-géographie et de français dans ces trois collèges. C'est ce qu'on disait tout à l'heure au repas, c'est que le problème souvent des questionnaires, c'est qu'on a un faible taux de retour. Donc du coup, on s'est toujours biaisé. On a ceux qui sont plus intéressés pour répondre, etc. Là, j'ai voulu vraiment demander à tous les enseignants de ces trois collèges que j'ai pu visiter, de façon à voir vraiment, c'était ça l'objectif, qui est pour, qui est contre l'enseignement du fait religieux, dans quelle proportion. Alors évidemment, les proportions ne sont qu'indicatives, mais je pense que ça donne une idée. Elles sont indicatives parce que l'échantillon n'est pas large, mais ça peut donner une idée. Je donne une petite tendance, en fait une tendance assez forte, qui se trouve dans cet échantillon-là, de 26 enseignants interviewés, une tendance forte, mais qui est à relativiser, évidemment, parce que c'est un échantillon restreint. Les croyants sont plus favorables au projet ministériel. Et les jeunes aussi sont plus favorables au projet ministériel. Bon, ce qui peut s'expliquer dans les deux cas, je pense que tout de suite, vous avez des hypothèses qui émergent, il n'y a pas besoin de commenter vraiment. Des hypothèses divergentes, évidemment, on peut interpréter ça de différentes manières. Et je passe maintenant à la dimension qualitative de mon enquête avec des extraits d'entretien ici. Je note une première divergence, c'est une divergence sur la part du culturel dans le fait religieux. Est-ce que le fait religieux, c'est quelque chose de culturel, de social ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose en plus avec une dimension religieuse derrière ou un message des religions? Donc ça rejoint tout à fait les débats publics entre la position de Wilhelm, la position de Kinsler, etc. etc. Les enseignants, en fait, sont un peu dans les mêmes débats. Il y a un enseignant, par exemple, ici, d'histoire-géographie, qui par ailleurs est non-croyant, qui explique que c'est hallucinant, faut arrêter de dire faut enseigner, stop, on en met trop. De toute façon, on insiste sur des sociétés religieuses. Parce que là, on est dans le fait culturel, dans les mentalités. Les mentalités, c'est du fait culturel. Le fait religieux, c'est bien du culturel. Le culturel de la mentalité. Donc là, l'enseignant insiste bien sur le fait qu'il n'y a rien derrière le fait religieux comme fait culturel. Il n'y a pas quelque chose en plus. Mais tous les enseignants ne sont pas de cet avis. Ici, une enseignante de français qui, par ailleurs, est croyante. Ça ne veut rien dire, mais je donne les indications comme ça pour donner un effet de réalité un peu. Elle explique que ça dépend ce que fait l'enseignant. Ça dépend de quel est son niveau de conscience. Est-ce que je vais enseigner la religion de manière basique, en m'en tenant au texte? Donc là, c'est le côté basique, culturel. Ou est-ce que je vais élever les choses à un certain niveau de conscience? Par exemple, dire qu'on est tous interconnectés. Ça, c'est monter à un certain niveau de conscience. Et que là, ce que je vais dire, c'est pas du tout naïf de ma part, c'est que s'il y a un Dieu, s'il y a plusieurs dieux, peu importe, eh bien, c'est que Dieu est amour. Et ça, je crois que ça peut passer et ça touche. Donc, ouais. C'est un peu, en fait, les mêmes débats. Ils sont formulés un peu différemment. Les mêmes débats sont parmi les enseignants et dans le débat public. Alors, sachant que, évidemment, les débats parmi les enseignants sont plus réels d'une certaine façon parce qu'ils ont une influence sur ce qui se passe dans les classes. Mais bon, en fait, dans les débats publics, ça a une influence aussi parce que ça donne quand même des orientations. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur cette diapo-là parce que je vois que le temps passe. D'autres divergences, alors des divergences identitaires. J'appelle ça des divergences identitaires. Il s'agit d'enseignants. Je trouve ça intéressant. Il y en a, je ne sais plus exactement combien, mais il y en a plusieurs quand même dans un échantillon de 26 enseignants, je pense que ça veut dire que c'est pas un hasard. C'est des enseignants qui considèrent en gros que l'enseignement du fait religieux c'est pas compatible avec l'identité française en fait. Là c'est ce que dit un enseignant d'histoire-géographie. La conscience nationale s'est forgée dans la nation française. L'enseignement du fait religieux est une tentative avortée de réinstaurer un enseignement comme quoi la religion chrétienne est celle de la France. Or je vais commenter un petit peu encore ce passage-là pour dire qu'il ne s'agit pas de dire que tel enseignant dit des choses bien et tel enseignant dit des choses pas bien. Il s'agit de dire que Là, quand on voit... Bon, ce qui est sûr, c'est que bon, l'enseignant, là, n'a pas vraiment compris les objectifs officiels de l'enseignement du fait religieux. Hein. N'empêche, peut-être que ce mauvais compromis qui est prôné un peu par Debray, eh ben justement, il fait des malentendus, il crée des malentendus parmi les enseignants. Peut-être, c'est vraiment une hypothèse, que les enseignants ne comprennent, enfin certains enseignants, pardon, ne comprennent pas forcément de quoi il est question, parce que justement, ça reste flou, et qu'il faudrait préciser les choses, peut-être. Au contraire de ce que prône Debray, c'est-à-dire de faire un mauvais compromis. Un autre exemple, je privilégie les valeurs républicaines qui rassemblent de notre pays. Je ne parle pas du monde entier, mais en France. Voilà, donc dans d'autres pays, pourquoi pas, mais en France, non. Des divergences aussi sur l'objectif de tolérance. Alors, par exemple, là, premier exemple, un enseignant qui explique que, en tant que prof d'histoire, alors l'objectif de tolérance, c'est un objectif officiel hein, de l'enseignement du fait religieux. Mais ce professeur-là, il est un peu sceptique. Il dit, en tant que prof d'histoire, je vois ça plutôt comme un vecteur de séparation. Alors, je demande, dans l'enseignement, vous insistez plutôt sur la séparation? Dans l'enseignement des faits, oui. Après, le côté éducation civique, quand il y a un élève, on va faire une religion. Après, c'est plus le côté Abraham. Il y a des points communs, chacun a le droit d'avoir sa religion et chacun peut vivre ensemble, etc. Donc ça, je trouve ça très intéressant aussi. C'est des enseignants qui considèrent que dans leur discipline, en tant que fait vraiment, ça suggère pas trop la tolérance, le fait religieux. Donc c'est difficile enseigner la tolérance grâce, ou éduquer à la tolérance, comme on dit, grâce aux faits religieux, il y a peut-être un blocage à un moment. Par contre, en éducation civique, pourquoi pas, comme le dit là l'enseignant. Voilà, je reviens sur cette phrase de Debray que je trouve très intéressante. Un mauvais compromis vaut mieux qu'une bonne guerre civile. Et puis, un autre point de vue, celui de Forêt, qui dit que l'enseignement des faits religieux apparaît comme une réponse censée être consensuelle à des questions que l'on ne parvient pas à distinguer clairement. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer là. Quand on gratte un petit peu, il y a un consensus de façade, mais derrière, voilà, un tel veut une discipline spécifique, un tel veut que soit enseigné le message des religions, etc., etc. Et voilà, qu'est-ce que ça va donner dans le futur? C'est ça la question, évidemment. Pour l'instant, bon, il n'y a pas... on ne sait pas trop, en fait, ce qui se passe dans les classes. Mais... Voilà, au niveau des orientations futures, faut voir ce que ça va donner, quoi. Mais je considère que une chose importante, c'est de clarifier les choses, quoi, de redire qu'il s'agit d'enseigner à travers les disciplines et de pas surajouter d'autres objectifs. Donc je termine par cette question-là. Est-ce que l'indétermination des objectifs de l'enseignement du fait religieux permet un compromis ou au contraire favorise-t-elle les résistances? Est-ce que, justement, ce côté un peu flou, il va pas braquer certaines personnes, certains enseignants, justement, qui vont dire « Ah non, 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 moi je fais pas ça, je refuse parce que bah, c'est du catéchisme, etc. etc. » voilà. Je pense que ces positionnements-là, bien qu'ils soient pas, conformes aux objectifs ministériels, reste tout à fait pertinent, quoi. Des gens qui disent que, voilà, il y a quelque chose de pas clair, donc je suis pas convaincu.
Simplement, moi, je voulais que vous précisiez les établissements dans lesquels vous êtes rendu. Est-ce que c'était des établissements plutôt en zone d'éducation prioritaire ou au contraire favorisés, etc. Et est-ce que ça pourrait avoir une incidence sur les réponses?
Oui, c'est très important. J'ai pas précisé ça à cause du temps, hein. Mais ce sont des établissements, je vais pas trop situer, mais c'est une ville moyenne en région PACA, dans les Bouches-du-Rhône. Voilà, Et donc, les Bouches-du-Rhône, c'est quand même assez... Il y a une mixité sociale et culturelle. Hein. Mais ce ne sont pas des établissements ZEP, à l'époque où je faisais l'enquête. C'était, voilà. Mais par contre, ce n'était pas non plus centre-ville. C'était un peu l'établissement plutôt hétérogène. Voilà. Alors ça a une influence, oui. Y a pas, je ne pense pas qu'il y avait de problème spécial, de contestation... dans ces établissements-là. Donc évidemment, des enseignants REP plus dans les quartiers nord de Marseille, ça va pas donner les résultats. Hein.
Oui, je voulais simplement rebondir sur ce que vous disiez dans la première partie de votre exposé en disant que, à mon avis, on fait trop souvent comme si il y avait une seule conception de la laïcité. Et vous avez cité un certain nombre de spécialistes, Jean-Paul Willem, etc., sociologue des religions, Catherine Kinsler. On pourrait ajouter naturellement Bobéro, des universitaires qui travaillent sur ces questions autour du fait religieux et éventuellement de son enseignement. Et je crois que un des éléments qui explique les clivages, c'est en fait leur conception de la laïcité qui n'est pas la même. Jean-Paul Willem a été impliqué dans des controverses qui sont évidemment nécessaires et tout à fait intéressantes, avec des gens comme Jean-Paul Scott, qui est historien, des gens comme Henri Pena-Ruiz. Alors on dirait que plutôt que Catherine Kinsler se situe en position médiane, hein, mais je crois que il y a dans le monde universitaire des courants qui sont des courants qui sont opposés sur un certain nombre de points théoriques concernant la perspective donc laïque et conséquemment l'enseignement des faits religieux. Ensuite, je voudrais simplement apporter un témoignage. L'année dernière, on m'avait demandé, je précise, c'était avant les attentats du mois de janvier, d'intervenir face à des étudiants, dont des enseignants du secondaire qui faisaient une certification sur le thème de la laïcité. Et là, j'ai été extrêmement surpris du caractère explosif entre les collègues qui venaient d'établissements différents, qui étaient tous donc des professeurs qui enseignaient de la sixième à la terminale des disciplines qui pouvaient être très différentes. Mais en fait, nous nous sommes aperçus que les conceptions de la laïcité étaient extrêmement diverses. Alors si on reprend ce que Bobéro établit dans son dernier livre « Les sept laïcités françaises », on avait des collègues qui étaient des laïcs anti-religieux, et on avait des collègues qui étaient des laïcs identitaires, la laïcité identitaire étant identifiée comme étant caractérisée comme par Bobéro comme le dernier type de laïcité à apparaître dans l'espace politique et social français. Donc je veux dire que je pense que ça explique aussi le caractère extrêmement déstabilisé des enseignants sur le terrain, qui ont donc à se confronter à la réalité des problèmes qu'ils vivent dans leur classe, mais qui ont aussi, sur le plan intellectuel et sur le plan de la formation, à se situer dans un environnement qui est de toute façon mouvant. Parce que si vous lisez ce que dit Willem, d'ailleurs il est intéressant de lire Willem quand il est en contexte d'intervention en colloque en France et quand il est à l'étranger. Il va beaucoup plus loin que, par exemple, dans certaines conférences qu'il a données au Québec, dans une vision, qu'on pourrait appeler assez, communautariste de la laïcité, qu'il ne le fait en France, parce qu'il sait très bien qu'en France, évidemment, il va susciter des prises d'opposition extrêmement vives. Donc voilà, je voulais simplement témoigner de ces deux aspects, et à mon avis, c'est un des éléments qui explique la difficulté devant laquelle se trouvent les enseignants. Et je voudrais aussi dire que lorsque je suis intervenu de nombreuses fois depuis une quinzaine d'années devant des publics de premier degré ou de second degré sur ces questions de laïcité et d'enseignement des faits religieux, ce qui m'a toujours été dit, c'est nous n'avons pas la formation pour aborder ces thèmes-là. Et j'ai été surpris, j'ai fait une fois une formation devant des professeurs d'histoire-géographie et de philosophie, et la première chose qu'ils m'ont dite quand on a balayé les attentes et les besoins des stagiaires, c'était pourtant des professeurs souvent très expérimentés, ils m'ont dit « nous avons besoin d'avoir des éléments d'information théorique ». Notamment, par exemple, je trouvais des professeurs qui ne savaient pas qu'il y avait plusieurs récits de la création dans la Bible et qui étaient intéressés justement par le fait qu'on en parle.
Bon, mais merci. Oui, je crois que bon, je dis juste un mot sur. Oui, je trouve ça important aussi l'insistance que vous faites sur la théorie aussi, quoi. C'est-à-dire qu'en effet, il y a la pratique des enseignants en classe, mais que derrière, les enseignants ont un bagage théorique. Et puis, c'est vrai que si, déjà au niveau théorique, les gens ne sont pas d'accord sur la laïcité, eh ben ça crée des difficultés. Oui, oui. Sur ce que vous dites sur Willem, je savais pas. J'imagine bien que il a pas exactement le même discours au Québec qu'en France. Et ça m'amène à faire une remarque sur certains intellectuels qui semblent quand même utiliser les sciences sociales ou la philosophie à des fins de prosélytisme, tout simplement. Bon, peut-être le mot est un peu de propagande religieuse. Alors, il y a un cas qui est très intéressant, c'est celui de Roger Puivet, qui est philosophe et qui publie aussi un article dans ce livre « Théorie de l'évolution et religion » qui est dans la plaquette là de l'IUSR. Et Puivet dit que... Alors lui, c'est compliqué parce qu'il est très critique vis-à-vis de l'enseignement du fait religieux. Mais n'empêche, il est dans le débat et il dit que les sciences sociales sont biaisées, tout simplement parce qu'elles ne considèrent pas que la cause des croyances religieuses... ça pourrait être Dieu lui-même. J'ai ouvert l'article là, Archives de sciences sociales des religions, une revue très sérieuse, en 2015, Roger Puivet qui écrit un article, Christianisme, épistémologie et sciences humaines, et je lis juste la première phrase, et puis ça va peut-être vous donner envie de goûter la suite. Si la religion chrétienne est vraie, son origine est surnaturelle, c'est Dieu lui-même. Les croyances religieuses sont un don épistémique que Dieu fait aux croyants. Et ensuite, il déroule l'argumentation en disant que les sciences humaines devraient prendre ça en compte. Que peut-être, effectivement, c'est Dieu qui donne les croyances religieuses. Et puis qu'il les donne, évidemment, pas à tout le monde. Hein. Dieu, il les donne aux chrétiens, parce que voilà, il fait un don aux chrétiens. Donc on est dans le surnaturalisme total, quoi. Il faut imaginer un Dieu qui donne à telle partie de la population mondiale, puis les autres, bon, on ne leur donne pas. Et puis après, il faut les convertir... voilà, etc., etc. Donc voilà, il y a un livre de Johann Stavo de Bauge qui s'appelle « Le loup dans la bergerie », « Le fondamentalisme chrétien à l'assaut de l'espace public » où il explique bien cela, cette façon d'utiliser les sciences sociales ou la philosophie pour faire passer des idéologies religieuses. Donc là, ça devient vraiment pas clair à partir de là.
Très vite, deux éléments de contexte. Vous avez cité Philippe Joutard.
Non.
Non, je ne l'ai pas cité.
Bon, non,
je l'ai entendu.
Ah bon,
Non, vous ne l'avez effectivement pas
Régis
cité.
Régis Debray, peut-être, oui, rapport.
Parce que c'est antérieur à celui que vous avez cité.
Mais...
Et donc moi, j'ai reconstruit dans ma petite tête. Donc 92, je crois, le rapport Joutard. Et on est dans le contexte de la loi d'orientation Jospin de 89, qui place... Tout le monde le sait ici, l'élève au centre du système éducatif, et c'est la grosse bagarre avec les républicains, etc. C'est-à-dire que là où ils mettaient les savoirs au centre, la loi place l'élève au centre. Très important, Joutard propose plusieurs enseignements transversaux. L'histoire des religions, oui, l'histoire des arts, l'histoire des technologies. Il y en a un qui a abouti, et qui est vraiment pluridisciplinaire, qui est enseigné en second et en premier degré, pour lequel il n'y a pas d'enseignant spécialisé histoire des arts, mais pour lequel il y a des enseignants d'histoire, d'art plastique, de sciences physiques, etc., de beaucoup de disciplines, de philosophie, enfin, ainsi de suite, et qui est au baccalauréat, c'est l'une des spécialités du bac L. Voilà, donc ça a maintenant été jusqu'au premier degré. Cet enseignement transversal, pluridisciplinaire, trouve son origine dans les propositions de Philippe Joutard. Oui. Dans un contexte où on place l'élève au centre, on ne place pas les savoirs disciplinaires au centre, et on ne pense pas que les religions, on pense les technologies, on pense les arts, et peut-être d'autres que j'ai oubliés ou que je ne sais pas. Donc je voulais remettre cet élément de contexte. Après, sur la question des savoirs, et je m'arrêterai après ce deuxième point, c'est très 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 compliqué. J'entends qu'il y a des besoins. Moi je suis comme vous, aujourd'hui j'ai appris qu'il y avait deux récits de la Genèse dans la Bible, etc. Mais je me souviens, lorsque j'étais directeur du CRDP de Créteil, nous avons édité Islam, Islam, singulier, pluriel. Un bouquin préfacé par un inspecteur général. Nous présentions dans un amphithéâtre d'un lycée, à Maison Alfort, lycée de la Croix, devant une centaine ou un peu plus de collègues, la sortie de ce bouquin. À la table, il y avait sociologue, il y avait un inspecteur général que je ne citerai pas, il y avait un professeur, une professeure de la Sorbonne, spécialiste de l'islam médiéval, etc. Et cet inspecteur général, qui a joué un rôle important dans l'institut que vous avez cité, dit en public devant tout le monde, c'est pour ça que je peux le répéter, on ne peut pas historiciser l'islam comme le christianisme. Je ne vous dis pas le bon sur sa chaise de la collègue universitaire à la Sorbonne spécialiste de, qui a fait évidemment un bond de plusieurs dizaines de centimètres et qui a aussitôt dit au micro, vous m'accordez 30 secondes, je vous couche 10 dates sur un papier pour vous montrer qu'on peut... Bon, voilà. Donc on peut être une autorité dans l'institution, passer pour une autorité de haut niveau spécialiste sur des contenus et pouvoir sortir quelque chose qui me semble aussi hallucinant que de dire que tel, peu importe que ce soit l'islam, le christianisme, le bouddhisme ou l'inverse, qu'il ait dit l'inverse, peu importe, qu'on ne peut pas historiciser. Voilà. Donc à la fois c'est compliqué parce qu'il y a effectivement un besoin de contenu à perte de vue, on a besoin de contenu, et en même temps, bah voilà, comme je l'ai dit ce matin en atelier, il faut inlassablement croiser les compétences, les entrées disciplinaires, et Philippe Joutard avait cette intuition. Aujourd'hui, Philippe Joutard, entre autres choses, continue à copiloter le comité pédagogique du musée de l'histoire de l'immigration avec Benjamin Stora.
Non, c'était juste pour rebondir par rapport à la formation. Donc moi, je suis CPE stagiaire. Et donc très, très concrètement, autant l'an dernier, j'étais inscrite en Master 1. Et à chaque fois qu'on a essayé d'aborder la discussion sur des thématiques ayant trait à la laïcité, on s'est fait un petit peu rabrouer par des collègues qui avaient un Master 1 à valider. On n'est pas forcément tous au même niveau. Enfin, il y en a qui ont des Master 1 à valider, d'autres qui avaient déjà des Masters. Et c'est vrai qu'on n'avait pas forcément les mêmes attentes de la formation. Et donc, du coup, il n'y a pas eu vraiment d'échange. Voilà. Les gens disaient, ah non, mais on a un programme à faire. Bof. Donc, on taisait les discussions. Autant cette année, donc on est avec ceux qui ont réussi le concours. Et donc là, on parle beaucoup de cas pratiques. Et d'ailleurs, on s'est rajouté des cours d'analyse de la pratique en accord avec nos formateurs, qui n'étaient pas forcément prévus, parce que justement, il y a vraiment un besoin d'échange. Et en fait, pourtant, dans le concours de CPE, la question de la laïcité est quand même beaucoup abordée. Hein, c'est quand même une thématique qu'on travaille beaucoup déjà de façon théorique. Malgré tout, au niveau concret, il y a quand même plein de situations hyper concrètes auxquelles on est confronté quotidiennement dans les établissements. Et effectivement, la théorie, c'est bien, mais confronter à un moment donné des points de vue, voir qu'est-ce qu'on fait chacun dans nos établissements, comment on s'y prend, avec quel personnel on travaille ici ou ça, comment on s'y est pris, concrètement, ça, c'est vraiment important. Et nous, on ressent ce besoin-là. Donc voilà, c'était juste pour pointer ça. Après, bon, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, donc c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui. Hein, mais c'est vrai que dans la formation, je ne sais pas du tout par rapport... On voit des collègues, là, on travaille avec des collègues qui sont PLP, mais en fait, finalement, on se croise peu. Enfin, en formation, on ne discute pas. Je ne sais pas comment les collègues des disciplines travaillent la question de la laïcité en formation. Nous, on le fait de cette manière-là, mais... Après, voilà, une fois qu'on est... là, c'est cette année, l'an prochain, c'est fini, on se débrouille, quoi. C'est aussi ça, la question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et encore, en tant que CPE, moi, je me sens pas spécialement seule. Je sais pas ce qu'il en est des enseignants. Peut-être qu'ils se sentent un petit peu plus seuls ou pas, je sais pas. Mais c'est vrai que la question de l'échange, quand est-ce qu'on a des moments pour échanger, pour discuter sur ces questions-là, concrètement, quoi. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que là, c'est...
Ça, c'est justement, j'en profite, quoi, du coup, pour dire que c'est un, ce que vous dites là, c'est un des objectifs. On veut explorer cette question-là dans cette recherche-là, voilà, religion, discrimination et racisme en milieu scolaire. C'est-à-dire la question du collectif. Une des hypothèses, c'est que les enseignants, quand ils sont face à un problème, ils peuvent le résoudre s'ils sont en collectif, s'ils discutent avec les autres, s'ils sont soutenus par s'il y a des référents et des références, des documents, la charte de la laïcité, etc. Et que si les enseignants sont tout seuls, même avec un bagage théorique super pointu, etc., ça va pas forcément marcher aussi, parce que les élèves voient bien aussi que, j'imagine un peu, quoi, que si, je fais des entretiens, là, avec des enseignants, justement, dans le cadre de cette recherche, et très récemment, il y a une enseignante qui m'a dit, je sais pas si c'était dans mes entretiens ou dans l'entretien de quelqu'un d'autre, mais enfin, une enseignante qui m'a dit que les élèves perçoivent que tel enseignant a telle règle par rapport au signe religieux ostensible, par exemple, et tel autre enseignant en a une autre. Et donc, du coup, ils sont un peu perdus et puis ils comprennent pas que la règle. Qu'est-ce que c'est qu'une règle, quoi ? C'est un petit peu le caprice de chacun, finalement. Donc voilà, juste pour dire que ce que vous dites sur le collectif, sur l'échange, dans l'établissement aussi, c'est très important. Ouais.
Dans votre enquête, on a vu que sous ce que vous ont dit les enseignants, vous aviez mis croyant, non croyant, croyant, non croyant. Quand on essaye dans un établissement de partager sur la laïcité, on se rend compte qu'il n'y a pas que cette entrée-là. Il y a bien évidemment croyant, non croyant, mais il y a aussi politique. La laïcité devient pour les politiques un marqueur fort. Il y a aussi l'origine des enseignants et leur propre religion. Et religions différentes. Effectivement, je témoigne que dans une salle des professeurs, c'est le type de débat qu'il faut mener avec énormément de pincettes parce que c'est explosif.
Mais est-ce que l'enseignement du fait religieux joue son rôle d'apaisement, puisqu'on dit qu'il y a un objectif implicite à cet enseignement ?
Je pense que moi, en tant que chef d'établissement, j'ai aucun recul. Je ne peux pas, je peux pas dire ce. Je peux pas tirer des conclusions sur les résultats supposés de l'enseignement des faits religieux. Moi, je suis complètement d'accord avec monsieur sur le fait que tout le monde y met un peu ce qu'il veut y mettre. Et la stratégie du mauvais compromis qui éviterait une guerre civile, en l'occurrence, j'en suis pas très sûr. Le mauvais compromis, c'est évident. Ce qu'il va amener derrière, je ne suis pas sûr qu'il évite les conflits.
Je suis un peu surpris parce qu'en fait, l'enseignement du fait religieux... Alors moi, je suis prof d'histoire géo, je distinguerais l'enseignement du fait religieux de l'enseignement du religieux. Et en histoire géo, depuis le temps que j'enseigne, on enseigne le fait religieux depuis longtemps. Dans les programmes de 5e, 4e, 3e... c'est quelque chose qu'on aborde depuis longtemps. Par contre, en anecdote ou en exemple, j'ai réussi, moi, dans mon établissement, qui est REP+, à apaiser un problème qui commençait à poindre par rapport au port du foulard, en explicitant bien ce qu'était la laïcité, le principe de la loi, qu'on pouvait être contre, et je me suis même positionné, moi, face aux élèves, en disant que personnellement, enfin, j'en étais arrivé là dans la discussion, que personnellement, j'étais contre le principe du refus du port du voile dans les écoles, parce que pour moi, c'était contraire au principe fondateur de la laïcité, mais que maintenant, la loi était là, qu'elle s'appliquait, et que voilà, fallait faire avec, et que si les choses devaient changer, et ben c'est par les mouvements citoyens, par d'autres biais qu'une revendication, une contestation dans la classe.
Oui, je voulais donner un élément de réponse à la question que vous posiez sur l'apaisement lié à l'enseignement des faits religieux. Alors là, j'avais il y a quelques années travaillé avec des professeurs de lycée professionnel justement sur cette dimension, puisque c'est un des points, la question de l'évolution religieuse des sociétés occidentales depuis 1850 est au programme de certaines classes de l'enseignement professionnel. Et donc c'était un sujet qui faisait peur effectivement aux jeunes enseignants stagiaires. Et il s'est avéré que de l'avis général de la dizaine d'enseignants avec laquelle je travaillais, ce chapitre, effectivement, quand les enseignants l'ont annoncé dans leur classe, ils ont souvent eu des réactions négatives de la part de certains élèves qui ont dit, hein, en fait, enfin, ils l'ont pas dit comme j'ai le formulé, mais qui ont dit on va encore se faire stigmatiser. Et que moyennant tout le travail qui a été fait justement et dans lequel les collègues se sont évertués à montrer que non, il n'était pas question de stigmatiser qui que ce soit, mais il était question d'étudier de manière scientifique, rationnelle et d'étudier en mettant finalement tous les courants religieux sur le même plan. Eh bien, il s'est avéré que j'avais fait faire une petite enquête, et notamment une des étudiantes avait fait un mémoire là-dessus, qu'elle a soutenu avec brio, et justement dans lequel elle montrait que c'était le chapitre qui avait le plus intéressé les élèves, et que c'était quelque chose qui vraiment les avait passionnés, parce que d'une part, ça leur avait montré, et ça leur avait beaucoup appris sur l'école, c'est-à-dire ça leur avait appris aussi que cette école qui malgré tous les efforts des enseignants et parfois une école qui je dirais pas qui stigmatise parce que le mot est peut-être fort mais qui est une école dans laquelle on a des discriminations qui sont évidemment inconscientes mais qui sont particulièrement décryptées par les jeunes qui en sont l'objet de ces discriminations. En fait, ça leur a montré que cette école-là était une école qui mettait finalement toutes les convictions, qu'elles soient religieuses ou non d'ailleurs, à égalité et qui les questionnait d'une manière rationnelle et d'une manière critique. Donc par rapport à la question que vous posiez, je pense qu'il y a quand même des éléments qui sont des éléments encourageants justement et qui militent en faveur d'une réelle prise en compte de l'enseignement des faits religieux. Et je voulais dire que un des éléments moi, que j'ai souvent constaté chez les enseignants quand ils parlent de leur pratique, c'est que justement comme ils se sentent en difficulté, une des stratégies qu'ils ont, c'est de présenter les courants religieux d'une manière très très formelle. Et donc vous avez une espèce de grille, hein. Alors on a l'impression qu'une religion c'est toujours finalement des textes. Alors c'est pas toujours des textes, hein. Notamment il y a un article de John Scheid dans une publication sur la religion romaine, dans une publication qui est parue en 2002, je sais pas si c'était dans le cadre de la DGESCO, je crois, mais qui montre bien que en fait pour un romain croire c'est faire, en fait que la religion romaine est une religion du faire avant tout, hein, de la pratique. Et donc effectivement très souvent finalement on a pour des raisons qui tiennent aux craintes légitimes des enseignants une vision qui finalement est assez lointaine des religions, c'est-à-dire on donne l'organisation, on donne quelques principes fondamentaux, on se risque pas par exemple à aller discuter de ça avec des étudiants qui préparent qui ont eu le CAPES, on se risque pas par exemple à aller discuter des différences dogmatiques entre les catholiques et les protestants. Or comment peut-on comprendre la rupture religieuse du XVIe siècle si on n'entre pas dans un certain nombre de questions dogmatiques? Et la réponse, c'est toujours, d'une part, je n'ai pas suffisamment de connaissances, et d'autre part, est-ce que j'ai le droit de faire ça? C'est-à-dire, est-ce que, en tant qu'enseignant, je suis fondé à entrer dans une analyse, finalement, du dogme? Alors moi, par rapport à un certain nombre d'affirmations qui ont été données, moi je pense qu'il faut effectivement, si on veut comprendre ce qu'est une religion, entrer dans un certain nombre de questions autour justement des dogmes. Alors vous parliez tout à l'heure de Kennel. Bon, c'est sûr que la citation de Kennel, elle est surprenante, mais quand on fait de l'histoire et de l'histoire religieuse, la question du miracle est une question essentielle. Et je faisais analyser récemment à des étudiants des manuels qui prennent la position, par exemple, de raconter l'histoire de Jeanne d'Arc en évacuant la dimension religieuse où elle dit avoir entendu des voix. C'est même pas dans le manuel. Comment comprendre quelque chose à l'histoire de Jeanne d'Arc si on évacue la question, qui est une question qui touche aux faits religieux, des voies? Donc, je pense que quelquefois, on veut se simplifier en fait la tâche, mais on va la compliquer, soit on va complètement dénaturer. Dans le sacre du roi de France, il y a une dimension qui est une dimension religieuse, puisque le roi de France fait des miracles. Donc effectivement, la question du miracle, c'est ce que Debray appelle un fait de croyance, c'est-à-dire la question pour l'historien, c'est pas de savoir si le miracle a une effectivité, c'est de considérer qu'une partie de la population, plus ou moins large, y a cru, et que ça a une influence évidemment très très grande sur le plan de la société étudiée.
Sidi, reste la question de quoi de neuf par rapport à l'enseignement de l'histoire qui a toujours inclus la dimension d'histoire des religions.
Oui, non, mais c'est sûr que les parents, c'est un réel problème, hein, mais je pense que là, il faut que l'école joue son rôle et qu'elle n'abdique pas par rapport aux parents. Et à titre d'anecdote, hein, j'ai commencé ma carrière dans l'enseignement secondaire il y a très longtemps, dans un petit collège rural, et j'ai eu un mot très sympathique, mais enfin ferme, d'un curé, qui, effectivement, puisque j'avais des classes de 6e, m'a reproché que en histoire, je n'abordais pas le christianisme comme lui le faisait en catéchisme avec ses élèves. Et je l'ai remercié de sa lettre en lui disant « Vous me prouvez que je fais de l'enseignement laïque et que je fais de l'histoire et que je ne fais pas de catéchisme. » Alors évidemment, je pense que vous n'avez plus de problème avec les curés, puisque évidemment, la sécularisation de la société s'est poursuivie. Hein. Nous sommes dans un temps... que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais enfin, c'était encore, il y a une trentaine d'années, des situations qui pouvaient se rencontrer. Alors elles se rencontraient là, effectivement, plutôt du côté de certaines religions, comme le catholicisme, qui est quand même dominant en France, enfin qui était dominant.
C'était un mot le carnet d'élèves, de parents d'élèves?
Non, là, c'était le curé qui assurait, donc dans le bourg où était situé le collège, c'était le curé qui, à l'époque, lui-même assurait le catéchisme, et un certain nombre d'élèves qui lui avaient dit qu'ils avaient appris en histoire des éléments qui étaient différents de ce que lui enseignait, et donc il me faisait reproche de ne pas respecter la parole de l'Église, ce en quoi je lui ai dit que je le remerciais effectivement de valider le fait que j'étais bien dans une perspective historique et non pas dans une perspective religieuse.
Alors, on a peut-être plus phénomène avec les curés, mais il apparaît avec les écoles coraniques, on entend souvent les élèves parler de ce qu'ils apprennent à l'école coranique et qui n'est pas en adéquation avec ce que nous on leur apprend au collège. Donc c'est là par contre, enfin moi j'ai jamais eu de lettre d'imam, hein, mais j'entends les élèves en discuter indirectement sur les différences d'enseignement entre l'école coranique et le collège.
Comme quoi l'histoire est un grand recommencement par certains côtés.
Mais justement ce que vous dites, ça rejoint ce que disait monsieur. Il faut qu'on se positionne en tant qu'institution laïque. Moi personnellement, j'ai jamais enseigné l'islam. J'ai enseigné la culture arabo-musulmane. Et dans la culture arabo-musulmane, je parle de l'islam, mais j'ai jamais enseigné l'islam. Et je ne vais pas sur les dogmes ou quoi que ce soit, je vais sur ce que la religion a pu apporter dans le cadre de l'organisation de la société arabo-musulmane. Pareil, en histoire, il n'y a pas de réelle rupture, c'est toujours des continuités entre les changements. Le calendrier chrétien a repris les dates du calendrier romain et ainsi de suite. Et quand on arrive à montrer toutes ces continuités qu'il y a même entre les religions du livre, de toute façon, tout en restant dans un esprit laïque, ça passe. Et moi, j'ai toujours trouvé que les élèves étaient assez réceptifs, qui prenaient, qui comprenaient. Bien sûr, il y a des conflits, ils essaient de parler de leur religion. Et là, moi, à chaque fois, j'essaie de repositionner. Non, vous ne m'entraînerez pas sur ce terrain. Voilà, j'ai un devoir de réserve déjà pour commencer, et ainsi de suite. Et on reste sur...
Oui, moi, pour enseigner l'histoire géo, je voudrais réagir à ce que vous venez de dire. Ce qui me gêne un petit peu dans ce propos, c'est qu'au final, quand on fait la naissance du christianisme ou du judaïsme, on est vraiment dans une explication du dogme, on étudie les textes. Et présenter l'islam sous l'aspect de la culture... c'est un petit peu dérangeant parce qu'on a l'impression d'un deux poids deux mesures et pour le faire avec les cinquièmes, je trouve que c'est assez intéressant même de partir de ce qu'ils connaissent et
de leur montrer que ben que bon, ils ont peut-être des erreurs aussi, des mauvaises interprétations, et après ben on a son devoir de se dire ce qui relève de notre enseignement et ce qui n'en relève pas. Mais je trouve que de partir des croyances des élèves, notamment dans le cadre du cours sur l'islam, c'est assez intéressant parce que ça permet de traiter des problèmes alimentaires, du rapport homme-femme, de la polygamie. Enfin, je trouve que de partir des textes et des dogmes, ça permet d'aborder énormément de questions en lien avec des problématiques actuelles de la société. Et puis j'aurais trop peur vis-à-vis des élèves. Alors déjà que les programmes font que c'est sur 2 années. Donc on commence en leur disant on fait la naissance du judaïsme, après on fait la naissance du christianisme, et puis là ils sont assez contents, ils nous disent bon bah alors après on fait l'islam, je dis ah non tant pis, après les vacances, puisqu'ils le font en 5e. Et si alors en plus l'année d'après on le présente sous la forme culture et non plus sous la forme un peu fait religieux, je trouve que c'est un petit peu dérangeant par rapport, pour ma part ça me dérangerait vis-à-vis de mes élèves. Mais ils sont, enfin pour en avoir parlé avec les élèves, déjà on se rend compte qu'il y a une très grande méconnaissance, puisque même en termes de religion, quand on leur demande tout simplement le pourquoi, ou sans leur demander de justifier leurs croyances, mais d'expliquer certains rites ou des choses comme ça, on se rend compte qu'il y a une méconnaissance. Donc ce qui me laisse à penser qu'il y a un réflexe identitaire fort aussi dans certains quartiers. À la fois, c'est aussi hyper intéressant de voir ce qu'ils connaissent, et puis de faire des ponts entre les religions, enfin notamment sur les 3 monothéismes. Très souvent, ils nous disent, quand on parle d'Abraham, « Ah, mais on a pareil chez nous !» Bon, et je trouve que de partir de ça, c'est quand même assez intéressant. Alors c'est vrai que c'est toujours une barrière difficile, parce que moi, ils me posent moi-même la question en me disant « Ah oui, mais vous, madame, vous êtes chrétienne. » Donc bon, voilà, mais c'est le moment aussi où je pense qu'ils peuvent parler de ce qu'ils entendent, eux, par le thème de baptême, et on leur fait parler aussi d'eux. C'est quand même des moments assez intéressants sur ce qu'ils vivent au quotidien. Et pour terminer, l'idée d'enseigner le fait religieux... Pour ma part, c'est très simple. Quand les élèves commencent à croire qu'on va faire du catéchisme ou que je vais leur enseigner la religion catholique ou juive, je leur dis simplement, ici, on est en histoire. On n'est pas là pour dire si c'est vrai ou si c'est faux. C'est comme quand on fait l'Iliade et l'Odyssée. C'est comme quand on fait la légende de Rome. On est, dans le cas des religions, on est là pour dire, voilà, les gens croyaient ça à telle époque, maintenant, encore. Et voilà les conséquences que ça a eues sur l'histoire. Et je trouve que les élèves sont tout à fait capables de faire la différence entre l'enseignement du catéchisme ou de l'école coranique et ce qui relève de l'histoire.
Non, moi je voulais dire que là on parle beaucoup de... On est majoritairement des enseignants qui sommes à Vaux-en-Velin, Saint-Fons ou dans des quartiers où il y a beaucoup d'élèves de culture musulmane. Sur l'ensemble du pays, justement, je pense que c'est pas le cas. Moi, j'ai enseigné aussi, notamment dans l'Ain, dans des collèges où il y avait un peu la problématique inverse, et où justement, sur la naissance de l'islam, je leur faisais faire des petits exercices sur l'alphabet arabe, parce que je le connais un peu, et j'ai eu des retours de parents très directs, dans les carnets de correspondance, m'indiquant que je n'étais pas professeur de langue. Donc il y a eu 2-3 interventions de parents de ce type-là, donc j'étais très bien défendu par ma direction, mais il y a quand même un contexte globalement de méfiance envers l'islam. Et ici, c'est vrai qu'on a une discussion spécifique, puisqu'on est souvent dans des établissements où il y aura une majorité d'élèves de culture musulmane, mais il y a quand même beaucoup d'endroits où la réflexion sera contraire, et puis l'opposition sera pas religieuse, elle sera identitaire. Et je choisis ce terme parce qu'effectivement, les groupes identitaires ont beaucoup de force, notamment dans les campagnes autour de Lyon.
Et vous avez... Comment vous avez résolu ce problème avec la direction concernant cet alphabet arabe?
C'était la veille des vacances. Je suis allé voir ma principale qui m'a dit on convoque les parents tout de suite. Les parents sont venus, elle a réglé ça avant les vacances. C'était... Moi j'avais une très bonne principale, justement, qui a suivi tout de suite et qui n'a pas laissé passer ça. Mais c'est pas forcément le cas partout.
Hein. J'ai exactement l'exemple inverse, là, dans l'enquête qu'on est en train de faire, où justement, c'est les parents qui voulaient rencontrer l'enseignant, et le principal, en accord avec le Seigneur, ont refusé justement en disant on va pas se justifier. L'école est laïque, etc. Donc c'est marrant, je trouve, de voir. C'était pas exactement le même problème, hein, c'était pas sur l'alphabet arabe, mais en gros, contestation. Pourquoi vous enseignez ça? Et justement lié à une identité nationale, culturelle, nationale. Et voilà, donc exactement le contraire comme réaction. Qu'est-ce qui doit être lié au...
De la principale? Non, bah, leur a rappelé le fait que l'enseignant était libre de sa pédagogie, que c'était dans le cadre d'un cours sur la naissance de l'islam, que c'était pas. Voilà, elle a rappelé en fait la liberté de l'enseignant là-dessus, et voilà. Enfin, elle a réagi, elle a défendu la liberté de l'enseignement, et puis de toute façon, il s'agissait d'une activité. Je pense que je l'aurais fait sur l'alphabet cyrillique, il n'y aurait pas eu de réaction. Non, mais c'était un argument caché. C'était juste, il n'y avait pas. Mais bon, apparaissait bien dans la formulation qu'ils étaient choqués de ce que leur enfant ramenait à la maison. Voilà. Bon, c'est dans des communes où le Front National fait 35%, donc c'est pas très.
Je suis prof d'histoire dans un lycée à Belfort et formateur académique valeurs républiques et laïcité. Je vais rebondir sur quelques éléments par rapport à tout ce qu'on entend depuis un moment. Je crois que la première idée, c'est qu'il ne faut pas généraliser. On enseigne dans des établissements différents, dans des milieux sociaux différents, même au sein d'une même ville, il n'y a pas deux établissements qui sont identiques. Et puis je crois qu'il faut laisser aussi à chacun cette fameuse liberté pédagogique qui est affirmée dans les programmes. Et je ne crois pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise manière d'aborder les choses. Je crois qu'il faut d'abord bien connaître et sentir son public. Et puis ensuite, par rapport à ça, c'est adapter ses stratégies. Ça, c'est la première idée que j'ai. Moi, je me méfie toujours de la généralisation et justement des dogmes, y compris en termes d'enseignement. Pour revenir sur ce que disait le collègue, qui me paraît intéressant, quand on va dans les collèges ruraux, on est parfois surpris. Et moi, en tant que formateur académique, il y a un principal de collège qui, pour la journée du 9 décembre, m'a demandé d'intervenir dans son collège. Et quand je suis arrivé, la première chose qu'il m'a dit, ben voilà, ici, c'est pas forcément ce qu'on connaît ailleurs. Il y a plein de préjugés. Plein de préjugés identitaires, et en fait, nos élèves ne connaissent pas l'islam. Et il y a plein de choses qui sont affirmées et qui sont évidemment erronées. Et ce qu'il me demandait un petit peu, c'est d'aller dans ce sens-là, c'est-à-dire de poser des questions par rapport à ces éléments-là, c'est-à-dire tout le contraire de ce qu'on peut être tenté de faire ailleurs. Donc les besoins ne sont pas les mêmes. Et il me semble que l'enseignement du fait religieux, alors moi je suis un adepte, je fais depuis très très longtemps, peut-être depuis le début de ma carrière, je ne vois pas en quoi ça pose problème. Et par ailleurs, comme le disait le collègue à ma droite, c'est abondamment enseigné. Moi, je suis en lycée, seconde, première, terminale, et je vois pas comment on peut expliquer d'ailleurs certains enjeux sans en passer par là. En terminale, on doit étudier les questions du Proche et du Moyen-Orient depuis 1918. Comment évacuer la question religieuse et sa connaissance à minima pour analyser le phénomène dans toute sa subtilité? C'est pas possible. Donc c'est quelque chose qui est évident. De la même manière avec l'EMC, éducation morale et civique, qui vient d'être mise en place cette année. Moi, cette année en terminale, avec des terminales, je le fais. On aborde la connaissance des religions. Moi, je me situe assez nomade pour un petit peu comment j'aborde les choses. Et ça se passe très bien. Je veux dire, voilà, ils ont une soif de connaissance. Ils ont envie de savoir ce que sont la religion des autres et aussi celles qu'ils pratiquent, parce qu'il y a une grande méconnaissance des jeunes des religions qu'ils prétendent pratiquer ou connaître. Et tout à l'heure, vous parliez de croyance. Moi, je voudrais bien savoir ce qu'on met derrière croyance. C'est quoi? Quelle croyance? Sur quoi ça s'appuie? Voilà. Alors moi, j'ai fait le choix de travailler sur les religions du livre, parce que mon postulat de base, et ça, c'est mon choix, et je l'assume, c'est de travailler sur les religions qui sont principalement représentées dans notre pays, c'est-à-dire principalement du monothéisme et principalement textuel. Et justement, ça permet d'aller sur la richesse et les difficultés des textes, tout ce qui est traduction, interprétation. Et là, il y a une possibilité de mener une réflexion avec des élèves qui est très intéressante. Bon, je vous accorde que ça s'adresse à des élèves de terminale S. Bon, alors, puis moi, je suis pas dans un établissement particulièrement défavorisé. Troisième et avant-dernier point, on parlait formation tout à l'heure, formation des néo-titulaires. Moi, j'ai envie de vous parler formation continue, puisque dans le cadre de la formation aux valeurs de la République et de la laïcité, au niveau institutionnel, il y a une commande qui a été passée, vous savez, les 1000 formateurs, dont je fais partie, qui doivent ensuite former les 300 000 autres. Vu comme on a pris la chose, ça se passe très mal. Hein, parce que, premièrement, dans les établissements, alors pour des raisons que je comprends, j'ai suffisamment d'amis perdirent pour connaître la difficulté, c'est un appel à volontariat. Hein, donc, principalement, qui on est en face de nous quand on organise une journée de formation? Des profs d'histoire géo à 80%, quelques profs de lettres, quelques profs de philo dans les lycées, des CPE. Voilà. Donc, c'est-à-dire, en réalité, bien souvent, ceux qui en ont le moins besoin. Et moi, je l'ai exprimé ce matin, enfin, tout à l'heure, quand on était en groupe avec Corinne Fortin, je crois. Je pense que la formation des enseignants sur la connaissance des faits religieux est fondamentale. Elle devrait être obligatoire au niveau initial et au niveau continu. On ne peut pas parler avec solidité de ces questions-là si on n'a pas soi-même un minimum de connaissances. De la même manière, la transversalité, pour moi, est essentielle. On ne peut pas aborder ces questions-là seul dans son coin, dans sa chapelle. Il faut absolument que ça soit transversal. Dernier point, ça c'est un petit... Pardon ? Ah oui, surtout dans sa chapelle. Dernier point, je rebondis sur l'affirmation de Régis Debray, que moi je ne partage pas. Parce que la question du compromis, on en parle beaucoup depuis les accords de Munich, par exemple. Et on sait ce que le compromis a pu donner. Et je pourrais très bien paraphraser Churchill avec le déshonneur et la guerre. Donc on pourrait très bien choisir le mauvais compromis et avoir la guerre quand même. Donc il faut réfléchir quand même. Et je pense qu'il y a des principes sur lesquels il ne faut pas transiger.